France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. L'Amérique de Trump qui fait la leçon à la France et à l'Europe, chez elle, à Paris, au sommet de l'intelligence artificielle. Le vice-président américain refuse la déclaration finale. Explication dans un instant. Les Français plus méfiants que jamais vis-à-vis de la politique et vis-à-vis de leurs élus. Conséquence directe de la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est l'enseignement majeur de l'enquête annuelle du CEVIPOF que nous détaillons dans un instant avec le politologue Bruno Cotres. Il est notre invité. L'enquête sur le meurtre de Louise dans l'Essonne qui s'accélère. Un homme est en garde à vue depuis hier soir. Nous verrons cela. Le tacle de Marine Le Pen à la candidature de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel n'est pas une maison de retraite de la vie politique et le Conseil constitutionnel se doit d'avoir au moins une apparence de neutralité.
Richard Ferrand proposé hier par Emmanuel Macron. À suivre encore, ces chauffeurs routiers originaires du Zimbabwe. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Et qui se retrouvent sur les routes de France.
Oui, et aujourd'hui victimes de représailles parce qu'ils osent dénoncer leurs conditions de travail. La CFDT vient à leur rescousse et s'attaque aux très gros transporteurs qui n'ont aucune morale tout en dénonçant une concurrence déloyale.
A tout de suite pour vos explications. Sans oublier le sport scolaire qui est en crise et ces Français qui se passionnent pour les jeux télé à l'image d'Emilien, le candidat qui bat tous les records depuis près d'un an et demi sur TF1. À partir de 13h30, une vache limousine ou pet, choisi comme emblème du prochain salon de l'agriculture. Son éleveur est avec nous. On parle passion, transmission et diversification avec Alexandre Humeau, 01 45 24 7000. Pour vos questions, 13h45, notre feuilleton à Chartres, la ville qui a basculé dans l'IA.
Bonjour et bienvenue à Chartres. Je suis Célia, votre assistante virtuelle.
Avec l'intelligence artificielle, on est capable de répondre de façon illimitée en même temps à tous les appels des habitants.
13h50, c'est la France. De plus en plus de communes proposent des mutuelles à leurs habitants. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, la comédienne Aurore Auteuil et le disco des Espagnols de Baccarat. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
L'enquête sur le meurtre de Louise a donc pris une autre dimension ces dernières heures. La fillette de 11 ans est morte poignardée à Longjumeau dans l'Essonne vendredi. Elle sortait de son collège. Hier soir, les enquêteurs ont interpellé un homme de 23 ans, puis placé trois de ses proches en garde à vue. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Et plusieurs éléments laissent à penser que cet homme est bien lié au meurtre.
Oui, des indices qui s'accumulent en attendant d'éventuelles preuves ADN. Depuis hier soir 20h, les enquêteurs entendent ce jeune homme âgé de 23 ans interpellé chez lui, non loin de là où réside la famille de Louise, à Épinay-sur-Orge, même ville, même quartier, un suspect qui porte des griffures, des coupures sur les mains selon plusieurs sources proches de l'enquête. Des résidents du quartier ont cru le reconnaître sur la vidéosurveillance de la ville récupérée par les enquêteurs tout simplement parce qu'ils l'ont déjà vu portant une doudoune noire comme celle que l'on voit très clairement justement sur la vidéo. Hier soir, celui qui est considéré désormais comme le principal suspect du meurtre de Louise a donné son emploi du temps à l'heure présumée du crime. Emploi du temps qui comporterait des incohérences. Et puis, ses proches, entendus d'abord comme témoins, puis placés en garde à vue ce matin, ont livré des versions discordantes, selon nos informations. En l'occurrence, la compagne de cet homme et la maman. Hier soir, des prélèvements ADN ont été effectués sur le suspect qui pourront être rapidement comparés avec les traces ADN relevées sur le corps de la petite victime, découvert, vous l'avez dit, dans la nuit de vendredi à samedi dernier, dans le bois des Templiers à Longjumeau, à quelques centaines de mètres de son collège.
Merci Emmanuel Leclerc pour ces précisions. C'est le premier face-à-face entre le nouveau pouvoir américain et les Européens depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche et il se déroule à Paris. Il est glacial. J.D. Vance, le jeune vice-président américain, 40 ans, est à Paris depuis hier soir pour le sommet sur l'intelligence artificielle. Hier, il a quitté le dîner à l'Elysée quand le vice-premier ministre chinois s'est mis à parler. Et ce matin, cet ancien militaire, reconverti dans les nouvelles technologies, a mis l'Europe en garde. Bonjour Frédéric Saïs.
Bonjour.
Vous êtes en direct du Grand Palais où se tient ce sommet. Mise en garde devant la présidente de la Commission européenne et devant le président français.
Oui, cravate rouge, veste bleue, le vice-président américain commence son discours par un sourire en direction d'Emmanuel Macron.
Monsieur le Président, je suis venu pour la bonne compagnie et pour le vin gratuit.
Mais très vite, le ton se fait moins amical. J.D. Vance s'oppose à la régulation de l'intelligence artificielle, une censure selon lui. Le modèle européen est clairement dans le viseur.
Nous invitons vos pays à travailler avec nous et à suivre notre modèle. Cependant, l'administration Trump est troublée par le fait que certains gouvernements étrangers semblent vouloir serrer la vis contre les grandes entreprises technologiques américaines. L'Amérique n'accepte pas et n'acceptera pas cela.
Et sur scène, la présidente de la Commission européenne fémine de ne pas se sentir visée, mais la réponse d'Ursula von der Leyen est sans appel.
Nous devons avoir notre propre approche européenne de l'intelligence artificielle. Trop souvent, j'ai entendu que nous devrions copier ce que font les autres et courir après eux. Au contraire, nous devons investir dans nos points forts ici, en Europe.
Et la présidente de la Commission annonce un plan d'investissement de 200 milliards d'euros, argent public et privé. Les dissensions Europe-États-Unis se reflètent aussi dans la déclaration finale de ce sommet qui appelle à une IA transparente et inclusive. Washington n'a pas signé.
Tout comme le Royaume-Uni d'ailleurs. Merci Frédéric Seyss pour ces informations en direct avec les moyens techniques de Marc Garvenès. Alors, pour se faire entendre, les États-Unis de Trump ont une arme favorite, ce sont les droits de douane. Le président américain a décidé hier de les relever de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium à partir du 12 mars. Il a donc encore le temps de changer d'avis, comme il l'a déjà fait. Ça laisse le temps de négocier, veut croire le Premier ministre canadien Justin Trudeau, lui aussi à Paris aujourd'hui.
Les tarifs proposés sur l'aluminium et l'acier canadien sont complètement injustifiés. L'acier et l'aluminium canadien fait partie intégrante de plusieurs industries américaines, dont la défense, la construction navale, les manufacturiers, l'énergie, l'automobile. Ça rend l'Amérique du Nord plus compétitif. Ça aide et les travailleurs américains et les travailleurs canadiens. Évidemment, dans les semaines à venir, on va travailler avec l'administration américaine pour souligner les conséquences négatives de cette proposition, cet ordre exécutif qu'ils ont signé. Mais nous travaillons aussi en coordination avec nos alliés à l'international, dont l'Union européenne. Je peux vous dire que notre réponse, évidemment, sera claire et ferme.
Les pays de l'Union européenne, eux, répliqueront ensemble, a affirmé ce matin le chancelier allemand Olaf Scholz devant les députés allemands. Et puis, commentaire du pape François ce matin sur la politique américaine en termes d'immigration. L'expulsion de migrants par les États-Unis porte atteinte à leur dignité, dit le pape il y a quelques minutes. Alors, on voit la méthode Trump à l'œuvre, menace contre ses alliés, renvoi en masse des fonctionnaires, liquidation des contre-pouvoirs. Trouve-t-elle un écho auprès des Français? Oui, si l'on en croit l'enquête annuelle du CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po, qui nous apprend qu'une large majorité de Français dit avoir besoin d'un vrai chef pour remettre de l'ordre dans le pays. Bonjour Bruno Cotresse.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue et chercheur précisément au CEVIPOF. Vous publiez cette enquête annuelle sur la confiance politique qui a été menée, je le précise, dans quatre pays européens. C'est ce qui fait tout son intérêt. Avant de parler de cette défiance vis-à-vis des élections et de la démocratie, il faut d'abord s'arrêter sur la défiance inédite dans notre vie politique. Et c'est d'ailleurs une particularité de la France.
Oui, c'est clairement une particularité de la France. On a comparé déjà plusieurs fois dans le cadre de cette enquête qui existe depuis 16 ans maintenant, la France à d'autres pays européens, régulièrement avec l'Allemagne, avec l'Italie, le Royaume-Uni, la Pologne. Cette année, ce sont les Pays-Bas. Et pratiquement toujours, on retrouve au fond le même scénario, une France qui est véritablement aujourd'hui en dernière position en termes de confiance dans l'avenir, de confiance même en soi-même souvent, de confiance dans l'action publique, dans la politique, et en particulier cette confiance dans la politique qui aujourd'hui est devenue une véritable défiance structurelle, véritablement structurelle, à un niveau cette année mesuré comme pratiquement jamais. Il faut revenir au moment de la crise des Gilets jaunes de décembre 2018 pour retrouver nos indicateurs à un tel niveau de défiance. On est véritablement cette année dans quelque chose qui est peut-être même au-delà de la défiance. Il y a d'autres indicateurs dans l'enquête qui montrent que les gens, ils ont décidé pratiquement de tirer le rideau avec la politique. On a même dit avec mes collègues, ils ont mis la politique au banc des accusés cette année, perçue comme incompétente, incapable de régler
les problèmes. Et ça, c'est pas marginal. Problèmes.
C'est pas marginal du tout. Les proportions que nous observons sont quand même très impressionnantes.
C'est une conséquence directe de la dissolution décidée par le chef de l'État au printemps 2024.
Alors c'est vrai que quand on compare par rapport à l'an passé, au fond, depuis l'an passé, il n'y a qu'un événement politique majeur qui aurait pu accentuer cette dimension, c'est bien évidemment la dissolution avec l'énigme qu'elle nous a livrée. On ne sait pas très bien, au fond, sur quel socle de légitimité repose le gouvernement. Et nous avons posé la question, nous avons une opinion qui très clairement refuse à François Bayrou ce crédit de légitimité en disant « non, finalement le gouvernement n'est pas légitime ». Et c'est vrai qu'on a là une véritable énigme, puisque il y a trois vainqueurs possibles des élections législatives. Le RN envoie, il gagne, il ne gouverne pas. Le NFP, le Nouveau Front Populaire de la Gauche, il gagne en siège. Il ne gouverne pas. Le Front Républicain, eh bien, il ne gouverne pas non plus. Donc on voit que ça a créé dans le pays un sentiment de très grande confusion.
Les élections ne servent à rien. Au fond, c'est ce que se disent beaucoup de Français.
Alors, ils conservent un attachement à la démocratie, aux institutions de la démocratie, à l'expression démocratique à travers le vote. Évidemment, toujours très important, mais sur fond d'une immense défiance et d'un sentiment que la politique, au fond, eh bien, c'est asymétrique. Elle demande des efforts. Elle demande des efforts, par exemple, en matière économique, sociale et économique. Et puis, elle s'affranchit un peu des mêmes efforts qu'elle a demandé au pays.
Et puis, il y a ce chiffre massif. 73% des Français que vous avez interrogés vous disent « Oui, on a besoin d'un vrai chef pour remettre de l'ordre ». Est-ce que c'est une tentation un peu autocratique d'un pouvoir autoritaire en France ?
Alors, il faut lire cette donnée avec un peu de prudence. C'est un mélange à la fois d'autorité, mais d'efficacité à travers la question de l'autorité. Ce que les gens ne supportent plus dans le pays, c'est le sentiment d'avoir un politique qui est incapable de dire qu'à un moment donné, on peut clôturer un dossier et dire qu'un problème, ne serait-ce qu'un problème, été réglé par l'effort que fait la nation au plan, par exemple, de ses contributions et de ses taxes. Et donc, c'est aussi la demande d'efficacité qui se traduit par une demande d'autorité. Mais c'est vrai que
c'est
quand
ça qu'il
compare,
veut lire dans l'expression « vrai chef ».
Oui,
peut-être
sans
un vrai
doute.
Chef, il va régler les problèmes.
Sans doute qu'il va régler les problèmes, qui va empoigner les problèmes et qui va enfin régler des problèmes. Et à nouveau, eh bien, on trouve une France qui est beaucoup plus en demande de ce point de vue-là d'autorité et d'efficacité que les autres pays européens.
Merci Bruno Cotrès, politologue, chercheur au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Je renvoie vers votre enquête annuelle que vous publiez aujourd'hui. Gardien de la démocratie française, on vient de parler de cette démocratie ensemble. Bruno Cotrès, son gardien, c'est le Conseil constitutionnel qui valide les résultats des élections, qui vérifie que les lois sont bien conformes aux textes qui fondent notre République. Par conséquent, son président est un personnage très important. Pour succéder à Laurent Fabius, qui arrive au bout de ses 9 années à la tête du Conseil, Emmanuel Macron a proposé hier soir Richard Ferrand, ancien député socialiste du Finistère, l'un de ses premiers soutiens dans sa marche vers l'Élysée. Une candidature étrillée ce matin par la chef des députés Rassemblement National à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen.
Je n'approuve pas la dérive qui consiste à systématiquement nommer des politiques au Conseil constitutionnel. Voilà. Le Conseil constitutionnel n'est pas une maison de retraite de la vie politique, et le Conseil constitutionnel se doit d'avoir au moins une apparence de neutralité. Bon. On a aujourd'hui un cénacle qui va être exclusivement politique, alors que c'est un cénacle qui est censé être un cénacle juridique. Partons de là, la question n'est pas tant les personnes qui sont nommées que la vision qu'ils ont du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'ils considèrent que le Conseil constitutionnel doit être un législateur ? Moi non. Est-ce qu'ils considèrent que le Conseil constitutionnel doit être un constituant ? Moi non. Et sont-ils capables de conserver une neutralité dans l'exercice de leur mission.
Marine Le Pen à l'Assemblée nationale ce matin. Le président de la République qui hésite à entrer dans la bataille du débat sur la fin de vie. Le Premier ministre François Bayrou a dit il y a quelques jours qu'il souhaitait que deux textes soient examinés. L'un sur les soins palliatifs et l'autre sur l'aide à mourir. Quand d'autres personnalités comme la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, poussent pour un seul texte de peur que l'aspect fin de vie ne passe à la trappe. Et bien ce matin sur France Inter, Emmanuel Macron a fait connaître sa décision et sa position, mais pas directement, dans la voix de la ministre de la Santé, Marie Mollet.
Oui, Catherine Vautrin, invitée de France Inter, a défendu une autre ligne, celle de revenir au projet de loi initial qui était en cours d'examen avant la dissolution, car le découpage du texte en deux, dit-elle en substance, reviendrait à torpiller le volet fin de vie.
Un seul texte permet de voter sur un ensemble complet de textes. Clairement, celles et ceux qui ne veulent pas de la fin de vie voteront contre ce texte. Au moment où je vous parle, effectivement, le Premier ministre souhaite deux textes. Ça n'est pas encore totalement arbitré. L'Élysée est sur un seul texte.
Et en effet, l'Élysée nous le confirme, le président reste favorable à un seul texte. Il en avait fait la promesse. Mais aujourd'hui, il n'a pas la main, nous assure l'un de ses conseillers. Donc, pas d'intervention spécifique dans le débat. Alors, a-t-il envoyé la ministre Vautrin parler à sa place? Est-ce une mission commandée? Pas de commentaire, évacue l'entourage de Catherine Vautrin, mais cette sortie permet au moins de rappeler la position du président, alors que les membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie, notamment, lui reprochent son silence. La ministre espère en tout cas mettre ainsi François Bayrou sous pression et le faire changer d'avis. « Ce n'est pas arbitré », disait-elle ce matin. Pourtant, la position à Matignon semblait parfaitement arrêtée. Encore hier, une réunion a eu lieu rue de Varennes avec les conseillers parlementaires. Le plan n'avait pas changé. Deux textes séparés, examinés probablement en mai, nous dit-on. Une semaine de débat pour chacun, puis un vote sur les deux textes le même jour.
Marie Mollet pour ses explications. En Israël, la trêve avec le Hamas ne tient plus qu'à un fil. Hier, le mouvement islamiste a menacé de reporter la prochaine libération d'otages en accusant Israël de violer l'accord de trêve. Réponse de Trump hier soir, libérez tous les otages d'ici samedi, sinon vous aurez l'enfer. Je rappelle qu'il reste 76 otages, 34 sont donnés morts par l'armée israélienne et leur sort est au cœur d'une réunion du cabinet de sécurité israélien qui a lieu en ce moment. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Thibault, la balle est clairement dans le camp des Israéliens.
Oui, avec devant le bureau du Premier ministre à Jérusalem, des familles d'otages ou d'anciens otages mobilisés tôt ce matin, entourés de centaines de manifestants pour faire pression sur le gouvernement. Et certains d'entre eux, comme Yosef Avi Yair Engel, dont le petit-fils a été relâché lors de la première trêve en novembre 2023, sont clairement favorables à la dernière proposition du président américain.
Trump est la seule personne dans le monde qui demande à ce qu'on libère tous les otages immédiatement. 76 Israéliens sont encore là-bas. Ils sont en très mauvaise santé. On l'a vu lors de la dernière vague de libération samedi dernier. Et j'espère que samedi, tout sera terminé. We will get
the finish. Alors quand, comment et à quel moment Donald Trump n'a donné aucun détail sur les modalités de mise en œuvre de ces menaces. Il n'a même pas précisé si l'ultimatum samedi était à midi ou à minuit. C'est donc très flou. La balle est dans le corps de Benjamin Netanyahou avec cependant depuis cette nuit une évolution majeure. Le Premier ministre israélien semble désormais avoir clairement le soutien du président américain s'il veut reprendre les hostilités à Gaza. Depuis ce matin, l'extrême droite favorable à la guerre et qui peut à tout moment faire tomber la coalition, jubile.
Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem. L'Italie, elle, a longtemps vécu à l'heure des coups de filet anti-mafia. Mais l'opération menée ce matin est inédite par son ampleur. Depuis près de 40 ans, nous dit la presse italienne. Impressionnante vague d'arrestations à l'aube. À Palerme, en Sicile, la police a interpellé près de 200 personnes soupçonnées d'être liées à la Cosa Nostra, la puissante organisation criminelle sicilienne. Et parmi eux, des chefs qui venaient à peine d'être libérés. À Rome, les précisions d'Olivier Tosseri.
Palerme s'est réveillée à l'aube cernée par les forces de l'ordre et survolée par un hélicoptère. Quelques 1200 carabiniers ont été mobilisés pour l'un des plus vastes coups de filet anti-mafia de ces dernières années. Une opération massive qui a conduit à l'arrestation de près de 200 membres de Cosa Nostra dans la capitale sicilienne et ses environs. Ils sont accusés, entre autres, de tentatives d'homicide, extorsion et trafic de drogue. Malgré les récents coups de boutoir de la justice et de la police qui les ont considérablement affaiblis, les clans font preuve d'une extraordinaire résilience. L'arrestation des boss mafieux ne fait pas complètement cesser leurs activités. Les carabiniers ont ainsi pu établir que certains d'entre eux, bien qu'incarcérés, disposaient de téléphones portables cryptés, introduits illégalement dans leurs cellules. Ils continuaient ainsi à transmettre leurs ordres à l'extérieur pour gérer leurs divers trafics. Le coup de filet de cette nuit visait ainsi des chefs de clans qui venaient d'être libérés et avaient immédiatement repris le contrôle du territoire via notamment le racket de commerçants. Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
Comment des chauffeurs routiers originaires du Zimbabwe, travaillant pour un groupe slovaque via un sous-traitant allemand, se sont-ils retrouvés sur les routes de France? Vous êtes avec nous, Maxime Debs, pour nous expliquer. C'est le syndicat CFDT qui alerte sur leur sort ce matin, car ces chauffeurs ont tenté ces derniers jours de dénoncer leurs conditions de travail et ils se sont retrouvés menacés.
Oui, victimes de représailles pour avoir osé s'offusquer. Trois routiers originaires du Zimbabwe, dont l'un mis en sécurité aujourd'hui dans un hôtel par la CFDT, intimidé la nuit il y a 15 jours par des inconnus.
Ils sont venus donc lui saboter son coupe-batterie pour qu'il n'ait plus de chauffage et ils lui ont également coupé un câble de frein.
Une intervention musclée faisant suite donc à une grève de ses salariés employés à bas coût par une entreprise slovaque sans scrupules et loin d'être la seule à agir de la sorte pour Patrick Blaise de la CFDT Transport.
Aujourd'hui, vous avez des milliers de conducteurs qui sont embauchés de cette façon-là. On leur promet 1500 euros, on leur en donne à peine 700. Ils vivent dans leur véhicule 24 sur 24 pendant des mois. Ils ne respectent pas les règles communautaires qui sont au bout de leur repos hebdomadaire. Une fois par semaine, ils doivent coucher en dehors de leur cabine de camion, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
De la traite humaine purement et simplement pour ce syndicaliste qui, par sa prise de parole, veut aussi que soient mieux protégées les plus petites entreprises de transport françaises qui subissent cette concurrence déloyale en plus de ces agissements déplorables.
Ce n'est pas ces conducteurs-là qui font du mal, ces conducteurs-là subissent. Ils ont été recrutés dans leur pays, obligés de faire des emprunts pour pouvoir venir payer leurs billets d'avion. Et ensuite, les entreprises qui les exploitent, les exploitent honteusement, puisqu'il n'y a aucun respect des règles européennes.
La CFDT qui appelle à débloquer plus de moyens pour plus de contrôle des camions qui circulent aujourd'hui sur le territoire national.
Maxime Debs, les importations d'alcool, les exportations d'alcool français en baisse de 4% en valeur l'an dernier, plombées par leur fort recul en Chine, moins 20% là-bas pour les ventes d'alcool et de spiritueux, en raison de la crise immobilière et du chômage des jeunes chinois, plus 5% en revanche sur le marché américain. Une partie du personnel du journal La Montagne, toujours en grève, le mouvement dure depuis 15 jours, 200 grévistes vendredi dernier. Ils dénoncent la réorganisation de l'imprimerie près de Clermont-Ferrand et l'absence de hausse de salaire. Le journal n'est plus imprimé tous les jours. L'état de catastrophe naturelle a été reconnu hier dans 112 communes de l'Ouest, dont 12 en Loire-Atlantique après les inondations exceptionnelles d'il y a deux semaines. Cela va permettre d'indemniser les sinistrés comme cette famille obligée de vivre dans une caravane. Nous sommes à Saint-Nicolas-de-Redon, au nord de la Loire-Atlantique. Un couple et ses trois enfants, dont la maison de plain-pied a été complètement inondée. Morgane Guillaumard les a rencontrés.
Dans la maison de Noémie, il n'y a plus aucun meuble. Les murs sont noircis par l'humidité et une forte odeur de renfermé persiste.
Les experts sont passés, donc normalement il va y avoir 3 semaines d'assèchement et normalement il va falloir changer tous les murs.
En attendant les travaux, Noémie est obligée de vivre dans une caravane avec son conjoint et ses 3 enfants, dont un bébé qui n'a même pas 1 an.
Le petit de 3 ans a dit à ma maman le jour, mamie... L'eau, elle est partie, mais tout est cassé.
Son fils de 7 ans a du mal à comprendre la situation.
Ça lui a pas plu qu'on aille dans une caravane, mais on lui a dit et c'est... On lui a dit, c'est soit la caravane, soit on est sous un pont, quoi.
La mairie n'a pas de logement à leur proposer et Noémie ne peut pas non plus louer une autre maison car l'assurance ne prend pas en charge tous les frais.
Là, on attend que les entreprises passent. Comme on dit, on peut malheureusement rien faire, même le ménage, ça sert à rien de le faire. Et voilà, après, vous voyez, dans cette maison, j'ai eu mes 3 enfants et les souvenirs sont dans la tête, quoi. Mais bon, ça fait mal quand même, quoi.
Cette maman de 29 ans a les larmes aux yeux.
Vous savez, ça m'arrive le soir de pleurer, hein. Le premier soir où on a dormi là, on était couchés, je me suis mise à pleurer. Mon conjoint m'a demandé qu'est-ce qu'il y a. Je lui ai dit, écoute, on est devant chez nous, on a tout perdu, on dort dans une caravane avec les 3 enfants. C'est dur.
Le temps de faire tous les travaux, cette famille ne pourra pas retourner chez elle avant 3 ou 4 mois.
Reportage ici, Loire-Océan. La disparition de la propriétaire du groupe Galerie Lafayette, Ginette Moulin, est morte dimanche à l'âge de 98 ans. Elle était avec sa famille la 34e fortune française, héritière du cofondateur des galeries créé en 1894. Le groupe est toujours dirigé par la famille de Ginette Moulin, 57 magasins en France, dont 38 sont franchisés. L'après-Jeux Olympiques est décidément difficile pour le sport français. Après la crise budgétaire, voilà la crise du sport à l'école. Le directeur de la puissante UNSS, qui gère les 9000 associations sportives au collège et lycée et regroupe 1 200 000 licenciés, ce directeur vient d'être mis à pied à titre conservatoire par la ministre de l'Éducation nationale. Il s'agit de l'ancien handballeur Olivier Giraud et ce n'est pas vraiment une surprise puisqu'il y a quelques mois, Emma Sarand l'inspection générale avait ouvert une enquête administrative.
Avec dans le viseur la gestion budgétaire de l'UNSS, un exemple révélé par le quotidien L'Équipe à l'automne, Olivier Giraud aurait utilisé les fonds de l'instance, 68 000 euros, pour la campagne de communication de son propre livre vendu à une vingtaine d'exemplaires seulement. L'équipe révélait aussi un possible conflit d'intérêts dans l'organisation de la gymnasiade, sorte de JO du sport scolaire fin octobre à Bahreïn, avec là encore un bilan financier négatif pour l'UNSS. Or, la fédération, qui regroupe plus d'un million d'élèves, est en grande difficulté financière. Et même si Olivier Giraud continue de défendre sa réorganisation de l'UNSS, le dernier bilan fait état d'un déficit de plus de 12 millions d'euros. Autant de griefs qui ont brisé la confiance entre le monde enseignant et l'ancien handballeur, premier sportif de haut niveau, non issu donc de l'éducation nationale, a accédé à ce poste en 2021. Il était nommé à l'époque par Jean-Michel Blanquer. Il y a 3 semaines d'ailleurs, le SNEP-FSU, principal syndicat des profs de PS, avait annoncé quitter le conseil d'administration de l'UNSS en dénonçant l'immobilisme des ministres successifs.
Emma Sarango, la Ligue des champions de football, début des barrages d'accession pour les 8e de finale. Ce soir, le Stade Brestois reçoit le Paris Saint-Germain. À Guingamp, match à 18h45. Finalement, le stade de Roudourou a fait le plein. Le choc de la soirée, ce sera Manchester City-Real Madrid à partir de 21h. Les matchs retour se disputent la semaine prochaine. La télévision française n'avait jamais vu un tel phénomène. Voilà un an et demi qu'un jeune étudiant à Toulouse, originaire de Vendée, enchaîne les succès dans l'émission Les 12 coups de midi sur TF1. Émilien, c'est son prénom, a dépassé le week-end dernier le cap des 500 participations avec à la clé plus de 2 millions d'euros de gains. C'est un record à la télévision française et il est au passage devenu un personnage très populaire sur les réseaux sociaux, connu bien au-delà du cercle des fidèles de l'émission. Mais comme lui, ils sont en fait des centaines d'aspirants candidats à se préparer comme des professionnels pour réussir. Bonjour Margot Barallon.
Bonjour.
Vous vous êtes intéressée à ces champions qui occupent les plateaux. Est-ce qu'il y a un profil qui se dégage ?
Eh bien, pas vraiment. Certes, on retrouve beaucoup de professeurs dans les jeux de culture générale, mais prenez Émilien, il est étudiant en histoire et n'a que 22 ans, alors que Marie-Christine, ancienne championne du jeu Tout le monde veut prendre sa place sur France 2, était une quadragénaire contrôleuse de gestion sociale. Elle a vu défiler beaucoup de candidats face à elle dans l'émission, et ce qu'elle raconte, c'est justement que tout le monde peut potentiellement gagner.
Il y a des PDG, il y a des cadres supérieurs, il y a des ouvriers, il y a des commerçants, il y a des fonctionnaires. Tous les âges, toutes les régions de France, c'est ça qui est formidable.
On peut quand même distinguer 2 catégories de joueurs, ceux qui se spécialisent dans un jeu et les téléludophiles, donc les passionnés qui font le tour des plateaux.
Et est-ce qu'il y a une méthode pour gagner ?
Absolument. Première astuce, très bien connaître le jeu, car certaines épreuves reviennent régulièrement. C'est ce qu'a fait Benoît. Il a été éliminé hier soir de N'oubliez pas les paroles sur France 2, mais reste le plus grand maestro de l'émission. Plus de 100 victoires au compteur.
Il y a des sites qui répertorient un peu tout ce qui s'est passé dans l'émission depuis 2013. Donc j'ai trié par occurrence le nombre de fois où c'était tombé. Et après, à partir de là, j'apprenais dans cet ordre-là toutes les chansons qu'il fallait. J'en avais travaillé 1131.
Pour les épreuves de culture générale, les candidats épluche des pages Wikipédia, bachote avec des fiches, regarde des films ou écoute des podcasts France Inter comme Marie-Christine. Mais l'autre conseil de Benoît, c'est de s'y mettre à plusieurs.
Je me suis inscrit sur les groupes Facebook de révision. Via ces groupes, je suis tombé sur un serveur Discord où on doit être 250 et là on joue vraiment, on a le jeu refait en logiciel, on fait des tournois entre nous et tout ça.
Dernière chose, ne pas sous-estimer la préparation physique, les journées de tournage sont longues et il faut de l'endurance.
Et j'imagine Margot que les candidats et les candidates adaptent leurs emplois du temps ?
Oui, certains posent des congés ou se mettent en disponibilité, les tournages sont groupés, mais pour les champions, comme Marie-Christine, cela représente une semaine complète par mois.
En 5 jours de tournage, on faisait 27 émissions, je crois. Et il faut être bien entouré chez soi aussi pour ne pas avoir de soucis qui viennent interférer avec ce qui se passe sur le plateau.
Et vous voilà prévenu, si vous voulez tenter vous aussi votre chance au casting.
Merci Margot Barallon pour ce mode d'emploi, les podcasts France Inter, toujours très bien pour préparer les jeux télé, mais aussi vos examens. Demain, par exemple, 13h28 sur Inter. Ou travailler votre culture générale dans la prochaine demi-heure de ce 13-14. La météo d'Élodie Calac, puis à 13h30, l'éleveur Alexandre Humeau avec nous. Sa vache Houpette sera l'égérie du Salon de l'agriculture qui débute dans 10 jours. L'occasion de plonger dans le quotidien d'un agriculteur, ses joies et ses difficultés. Il nous attend dans la Vienne. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, notre feuilleton. Une semaine dans la vie d'une commune qui a basculé vers l'intelligence artificielle. C'est Chartres. À la mairie, c'est un robot qui décroche, nous l'écouterons. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cyril Petit du journal Ouest France et Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui ?
Eh bien de Cambs-en-Plaine dans le Calvados à Échirolles en Isère en passant par Choconin-Neumontier en Seine-et-Marne. On parlera, Jérôme, des mutuelles proposées par les collectivités territoriales et ça se développe.
Et avec vous, Frédéric, une comédienne.
Aurore Auteuil qui propose cette semaine à Paris une nouvelle version de la pièce Les Monologues du Vagin à voir au studio Marini. Et avec elle, c'est une chanson du duo espagnol Baccara que nous écouterons, un tube disco qui reste associé pour elle à un moment très fort de sa vie.
Elle a un lien de famille avec Daniel Auteuil.
Il me semble que c'est son papa.
Ah, très bien. Voilà, j'en ai le cœur net. À tout à l'heure.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Les Victoires de la Musique 2025, c'est vendredi 14 février. 3 heures de live inédit, le palmarès et les coulisses.
Les Victoires de la Musique 2025,
c'est vendredi 14 février à 21h sur France 2 et en coulisses sur Inter.
France Inter, une radio de Radio France.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Un temps décidément humide.
Oui, du nord-ouest vers les frontières du nord, on a toujours beaucoup de nuages, quelques gouttes pour l'extrême nord, mais on a quand même des éclaircies appréciables qui sont attendues sur la Bretagne, le nord des Pays de la Loire, le sud du bassin parisien, la Champagne et la Lorraine. Sur le sud-ouest jusqu'au Roussillon, retour d'un soleil parfois voilé. Du sud de du nord de la Nouvelle-Aquitaine, pardon, vers le centre-Val de Loire, l'Alsace, le Massif central, le Languedoc et les Alpes. Là, c'est souvent gris avec encore des passages pluvieux, plus nombreux des Cévennes vers la basse vallée du Rhône et le Var. Il y a du vent des Pyrénées flanc est, un vent de sud à sud-est jusqu'à 50 à 60 km à l'heure. Les températures restent souvent hivernales au nord avec 6 à 10 degrés. C'est plus doux au sud, surtout sur le sud-ouest, 11 à 18 degrés attendus, les 18 au pied des Pyrénées, à Bayonne ou à Perpignan. Et puis demain, il faudra encore composer avec les nuages et des averses sur une grande partie sud.
Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Alexandre Humeau.
Bonjour Jérôme.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes éleveur de vaches limousines à Diéné, dans le département de la Vienne. C'était une vingtaine de kilomètres de Poitiers sur la route de Limoges, pour ceux qui connaissent. Et vous nous parlez en ce moment des locaux de nos confrères d'ici Poitou, à Poitiers.
Voilà, c'est ça.
Dans votre ferme, Alexandre, parmi votre centaine de vaches, il y a Houpette qui a été choisie pour être dans 10 jours l'égérie, l'emblème du salon de l'agriculture. Et j'ai l'impression que si le jury l'a choisie, c'est aussi en raison de la personnalité de son propriétaire. Et c'est pour ça qu'on vous a invité. 01 45 24 7000 pour les auditeurs qui veulent être en direct avec nous, qui veulent poser leurs questions. Vous passez également via l'application France Inter. Alexandre Humeau, comment va Houpette ?
Ça va, très bien. Je l'ai quitté avant de venir dans les studios de France Bleu.
Vous la choyez en ce moment ? Vous allez la voir plus que les autres, plusieurs fois par jour ?
Ah oui, donc déjà le matin, elle a son petit déjeuner particulier pour elle. Et après, bon, on la brosse, on la lave, on la promène, on l'habitue à voir du monde. On est plusieurs sur l'exploitation, chacun vient la voir, voilà.
Donc elle est habituée déjà à voir du monde, même si ça n'a rien à voir par rapport à ce qui va se passer dans quelques jours au Salon de l'Agriculture. Vous pouvez nous la décrire ?
Oui, donc c'est une vache qui pèse un petit peu plus d'une tonne, de race limousine. Donc c'est une vache qui a d'un assez gros format. Elle ira également au Salon de l'Agriculture avec son petit veau, qui est né le 25 décembre et qui a été baptisé il y a une quinzaine de jours par le département de la Vienne. C'est une petite femelle et qui se prénomme Vienne.
Vienne, voilà, il y avait je crois un concours pour savoir comment appeler le petit Houpette et ce sera donc Vienne. Comment est-ce que vous avez réagi, Alexandre Humeau, quand vous avez appris que vous étiez sélectionné ?
Bah, déjà, c'était une fierté personnelle quand j'ai reçu le coup de téléphone pour me demander si je voulais avoir la vache égérie. Je m'y attendais pas du tout. Et ensuite, bon, bah, déjà, je me suis dit, il faut que je vois pour pouvoir m'organiser parce que ça implique quand même pas mal de temps de préparation avant le salon. Mais également, ça fait 10 jours donc à Paris et pas sur l'exploitation. Donc, j'ai vu avec mes parents, mon salarié, mon apprenti pour qu'ils puissent donc faire le boulot quand je suis suis parti. Et j'ai vu aussi également à la maison, avec donc ma femme et mes enfants, pour aussi voir l'organisation un petit peu de tout ça, quoi.
Il faut continuer à faire tourner la ferme, évidemment, en votre absence, en l'absence d'Oupette et de Vienne, donc son petit. Je suppose que ça fait aussi du bien dans un contexte difficile. Vous avez une partie de vos terres qui sont sous les eaux ou qui, en tout cas, ont été très arrosées ces dernières semaines.
Oui, on peut même dire depuis 2 ans, parce que c'est vrai que depuis 2 ans, c'est un peu catastrophique au niveau de la météo. Ça fait 2 années que les cultures noient l'hiver, et du coup, on ramasse pas grand-chose, donc l'été, quoi.
Vous avez aussi été touché par la fièvre catarrhale ovine ?
Oui, donc on a été également touché donc au niveau des vaches. On a eu quelques animaux qui ont réagi positivement à la fièvre catarrhale. Alors ça a été des analyses qu'on a fait pour des animaux pour aller en concours, et donc on a reçu les résultats qui étaient positifs, mais les animaux ne présentaient pas de signes cliniques sur eux. C'était un peu déclaré comme ça, un peu fortuitement. Mais par contre, on peut constater avec un petit peu plus de recul maintenant qu'on a eu plus de vaches vides que d'habitude. Et on peut se poser la question si la fièvre catarrhale ovine n'a pas joué sur le soit de décaler les vaches au niveau de la reproduction, ou alors de peut-être également quelques avortements.
Alors vous allez présenter Alexandre Humeau Oupette aux Français qui vont venir la voir, très nombreux évidemment au salon de l'agriculture, et vous aimez ça à partager. Vous ouvrez très régulièrement votre exploitation à des classes, à des élèves qui viennent vous voir, et depuis longtemps. Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette rencontre ?
Alors moi déjà je suis très passionné par mon métier, je le vis vraiment à 200 à l'heure et puis à 200%, mais également sur l'exploitation j'aime bien transmettre donc un peu mon savoir et faire partager un peu ma passion. Alors je prends également pas mal de stagiaires, je prends des apprentis, quand il y a des écoles qui me demandent de venir visiter l'exploitation, bah, au contraire j'ouvre mes portes, et je fais également partie du réseau de ferme en ferme, donc avec le CIVAM qui est organisé dans la Vienne, et dont il y a un week-end porte ouverte qui se déroule généralement le dernier week-end d'avril, où là donc le grand public peut venir découvrir l'exploitation, et j'en profite également parce que je fais pas mal de ventes directes sur l'exploitation. Et j'en profite également pour faire de la vente directe ce jour-là, quoi.
On va parler de l'aspect commercialisation de votre métier, mais d'abord sur le partage. Quel est le message que vous leur faites passer à ces jeunes ? Vous leur dites, allez-y, vous pouvez vous lancer dans l'agriculture. Vous leur parlez de vos produits, de ce que vous faites, de comment vous travaillez ?
Voilà, donc alors c'est vrai que j'essaye de les pousser un petit peu dans le bon sens, parce que c'est vraiment un métier qui est super. Bon, après faut savoir qu'on passe énormément de temps à notre travail, donc faut que la vie de famille puisse l'accepter aussi. Mais bon, je veux dire c'est un métier où on est libre. On a quand même des contraintes, parce qu'il faut y être tous les jours. Mais si on veut s'absenter une heure pour un rendez-vous, si on veut partir voir quelque chose ou quoi, on n'a pas vraiment de contraintes vraiment horaires, et du coup c'est un plus dans notre métier. Après donc il y a aussi le fait de partager donc l'élevage des animaux, voir naître les animaux, voir les voir grandir, tout ça, et puis après la cerise sur le gâteau, on peut dire que c'est les concours, dresser les animaux pour les présenter sur les concours. Tout ça, c'est vrai que bon, c'est un peu la fleur, la cerise sur le gâteau, on va dire, mais c'est vraiment un plus et vraiment une passion que j'aime partager avec d'autres, quoi.
Vous avez posé les contraintes de votre métier, Alexandre Humeau, mais vous nous dites aussi à l'instant, c'est un métier qui est super. Et moi, ces derniers mois, ces dernières années, j'ai pas entendu beaucoup d'éleveurs et d'agriculteurs dire ça, en fait, publiquement. C'est un métier qui est super.
Bah, c'est un métier qui est super, parce que moi personnellement je m'épanouis vraiment dans mon métier. Après le petit côté négatif de notre métier, c'est un petit peu la rémunération par rapport au temps de travail qu'on peut passer sur l'exploitation. Faut savoir que depuis 2 ans, avec les céréales les rendements qui sont catastrophiques, ce qu'on peut gagner d'un côté avec l'élevage, et ben je vais le manger de l'autre côté avec les céréales. Donc c'est vrai que ça fait énormément de temps de travail de passer pour au final pas gagner grand chose, mais
combien vous gagnez, vous, combien vous arrivez à sortir de revenus par mois, Alexandre Humeau, pour faire vivre votre famille?
Donc moi, pour faire vivre ma famille, je gagne un petit peu plus d'un SMIC par mois, et mais ramener à l'heure de travail, c'est vrai que ça fait pas énorme.
Bon, après, votre épouse travaille avec vous, elle a un autre emploi?
Non, elle a un autre emploi, elle est secrétaire médicale.
Et sans ce salaire, peut-être ça serait beaucoup plus difficile.
Oui, bah c'est vrai qu'après ça pourrait être, ce serait plus difficile. Mais bon, faut savoir que on est sur des, comme moi, je suis toujours optimiste. On est peut-être sur des années aussi qui sont pas très bonnes en céréales. Si demain le climat s'améliore, on peut espérer aussi pouvoir. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui on peut vivre de son métier.
Question de Samuel sur l'application France Inter pour vous, Alexandre Humeau. Que mange Houpette au quotidien? Alors il est très précis. Je ne sais pas s'il est dans le métier, Samuel. Quantité, ingrédients, masse et origine, vous demande-t-il.
Donc, Houpette mange à 98% des aliments produits sur l'exploitation. Elle a du foin de luzerne, elle a également un petit peu d'ensilage de maïs, un petit peu d'ensilage de métaille, et après, elle a un mélange de céréales avec un petit peu de protéines qu'on achète du coup dans le commerce. Et pour justement, alors en quantité, elle mange environ autour de 15 kilos par jour.
Oui, il faut la nourrir.
15 kilos de matière sèche, je parle. Donc, oui. Brut, ça fait quasiment le double.
Vous produisez localement, c'est ce que vous nous dites, vos céréales. Ça, c'est quelque chose que vous aviez préparé quand vous avez repris la ferme, ou votre père, votre oncle faisait déjà ça? C'était déjà dans le modèle?
Oui, c'était déjà dans le modèle, mais ça, j'ai toujours été convaincu par le fait de produire sur son exploitation au maximum. Donc, avoir une autonomie alimentaire, pardon, de 98%, c'est quand même assez bien. Mais ça, je prône vraiment pour aller vers le 100%, quoi.
Donc, vous êtes indépendant des cours mondiaux, en fait, si les céréales flambent. Vous avez votre production locale pour nourrir vos bêtes?
Voilà, c'est ça. On est un petit peu indépendant. Alors après, faut savoir que sur mon exploitation, je vends quand même une partie des céréales, donc à des négoces ou des courtiers.
Ouais.
Donc là, ça peut. Mais sinon, au niveau de mon élevage bovin, c'est vrai qu'on peut dire que je suis indépendant des fluctuations au niveau mondial. Oui.
Et vous vendez 70% de votre production directement sur l'exploitation?
Oui, donc au niveau des vaches, j'ai environ une à deux vaches par mois, et je fais un veau tous les deux mois généralement, et j'ai un atelier de cochons, d'engraissement de cochons sur paille, et je fais autour de trois cochons par mois aussi.
Mais ça, c'est un autre métier, Alexandre Humeau, la vente?
Oui, mais alors moi, donc on va du début jusqu'à la fin de son produit. Moi, c'était mon oncle qui avait commencé à la vente directe dans les années 2000. Et moi, c'est un truc qui m'a toujours plu, voir son animal. Donc on l'emmène à l'abattoir, on découpe. Alors je le fais découper, hein, c'est pas moi qui le fais.
Vous n'êtes pas bouché non plus.
Non, je suis pas bouché. Non, il y a des professionnels, c'est très bien comme ça. Mais restituer notre produit à des clients, et après avoir des bons retours à chaque fois que je fais une vente, c'est rare de pas avoir un message. Ah bah j'ai mangé un rôti, il était extra. J'ai mangé des tourne-dos, c'était extra. Et bah ça, c'est une fierté, et c'est une fierté de voir que le consommateur est très satisfait de nos produits.
Comment vous avez pris cette décision? Est-ce qu'un jour vous êtes dit j'arrête de vendre à des négociants, on va se débrouiller, mais on va vendre ici en direct? Comment ça s'est fait?
Alors, ça s'est fait dans les années 2000, au moment de la vache folle. En fait, les cours avaient vraiment chuté, et il y avait vraiment une demande du consommateur de proximité, localement, d'avoir de la viande de chez nous, en fait. Et du coup, on a commencé à faire la vente directe à ce moment-là. Ça a très bien plu à mon oncle, il a très bien su me le transmettre. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que je me verrais pas vendre toutes mes vaches comme ça sans aller au bout de la chaîne.
Question de Jean-Marc dans la Nièvre, là aussi question de spécialiste. Quel est votre avis sur les éleveurs qui font engraisser leur veau à l'étranger et à avoir le label viande bovine française? Ce qu'il faut expliquer peut-être, Alexandre Humeau, c'est que pour les Limousines, il y a beaucoup d'éleveurs qui vendent ce qu'on appelle les broutards, c'est ça, à l'Italie, pour qu'ils soient engraissés, mais pas en France.
Voilà, c'est ça, oui. Donc il y a un marché au niveau du broutard, parce qu'il faut savoir que dans les zones herbagères, donc on va dire tout ce qui est Cantal, Limousin, et puis un petit peu le sud de la France aussi, c'est des zones qui sont plus herbagères, et les personnes n'ont pas forcément de céréales pour engraisser leurs animaux. Et on peut trouver un marché, donc que ce soit l'Italie, la Grèce, l'Espagne, pour justement qui nous achètent nos broutards, qui les engraissent.
Et vous faites ça, vous?
Non, alors moi tout est engraissé sur exploitation. Et alors oui, je reviens à l'histoire des broutards.
Bah oui.
Il faut savoir qu'en Italie, les Italiens sont consommateurs d'une viande de taurillon, une viande plus jeune, que nous en France, on mange de la viande rouge, de la vache.
Et ces bêtes, Jean-Marc nous suggère que quand elles sont engraissées en Italie et qu'elles sont ensuite vendues en France, elles ont le label viande bovine française, c'est exact ?
Alors ça, honnêtement, je peux pas répondre. Je peux pas dire.
Vous avez 38 ans, Alexandre Humeau. Vous êtes installé sur la ferme familiale. Vous conseilleriez aujourd'hui à un jeune de reprendre? Et si oui, à quelles conditions? Vous, ça s'est bien passé?
Oui, donc moi, je suis reparti sur une exploitation donc en individuel en 2022. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, pour un jeune qui est pas du tout issu des milieux agricoles, qui a pas de, c'est très compliqué aujourd'hui de s'installer hors cadre familial. Ou alors l'idéal, c'est de rentrer dans une exploitation sous une forme d'association. Et ça j'irais plutôt vers ce côté-là, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est pas du tout du milieu agricole pour s'installer, ça représente des capitaux qui sont énormes.
Il va y avoir besoin de jeunes qui soient pas issus du milieu agricole, parce que si on ne compte que sur les jeunes issus du milieu agricole, on va pas s'en sortir. Il y a beaucoup d'exploitations qui vont fermer.
Oui, alors donc c'est pour ça que l'idéal ce serait de rentrer en association sous forme de GEC ou voilà, pour mutualiser en fait les moyens et mutualiser aussi le matériel.
Dernière question, Alexandre Humeau, quel est le secret quand il pleut, et là il pleut depuis de très nombreux jours et notamment dans votre très nombreuses semaines, notamment dans votre département de la Vienne, quand on n'a pas trop le moral, vous qui allez dehors tous les jours, c'est quand même un métier très éprouvant aussi pour ça?
Oui, c'est vrai que c'est très éprouvant, c'est tout le monde en a ras-le-bol, parce que c'est vrai que quand on se voit entre collègues et puis tout le monde dit bon, c'est quand est-ce qu'on va voir le soleil?
C'est ça.
Voilà. Mais bon, faut se dire que on est dans une période qui est peut-être pas trop belle, mais faut espérer que demain on verra des jours meilleurs.
Vous serez à l'abri en tout cas pendant quelques jours, porte de Versailles. Je crois que vous êtes prêt, hein, Alexandre Humeau, à répondre à toutes les questions.
Je sais pas si je suis prêt à répondre à tout, mais donc non, c'est vrai. Donc je pars vendredi prochain au salon Porte de Versailles
avec Houpette,
Vienne, et j'emmène également Saudrenne. C'est une vache qui a été sélectionnée pour la vente aux enchères Label Rouge Blason Prestige.
Et pour tous ceux qui ne pourront pas vous voir à Paris au salon, vous accueillez toujours des visiteurs. C'est à Dienné, dans le département de la Vienne. Merci Alexandre Humeau.
Merci à vous
d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. 13h45. Une semaine dans la vie d'une commune qui s'est mise à l'intelligence artificielle. C'est Chartres, en Eure-et-Loire. Et dans ce deuxième épisode, nous découvrons que depuis vendredi dernier, c'est un robot conversationnel qui répond aux habitants quand ils appellent la mairie pour avoir des renseignements. C'est une première en France, testée pour nous par notre reporter Laurélie Carive.
Bonjour et bienvenue à Chartres. Je suis Célia, votre assistante virtuelle. Comment puis-je vous aider aujourd'hui?
Donc là, n'importe quel usager peut demander une information, comme il le ferait avec n'importe quel agent d'accueil de la ville de Chartres.
Je peux essayer?
Allez-y.
Bonjour Célia, j'ai un problème, j'ai perdu ma carte d'identité. Qu'est-ce que je dois faire comme démarche?
Si vous avez perdu votre carte d'identité, vous devez déclarer la perte auprès de la mairie ou du commissariat. Ensuite, vous pourrez faire une demande de renouvellement au guichet unique de la mairie de Chartres.
Et d'ici combien de temps je pourrais avoir une carte d'identité?
Oui. En déclarant la perte de votre carte d'identité et en faisant une demande de renouvellement, vous pourrez obtenir une nouvelle carte d'identité.
Ça tombe un peu en rond, je réessaye. Et sous combien de temps j'aurai ma nouvelle carte d'identité?
Le délai pour obtenir une nouvelle carte d'identité varie généralement de quelques semaines à un mois.
Donc, je suis Philippe Venard, je suis directeur général adjoint en charge des ressources et de l'innovation à Chartres Métropole et la ville de Chartres. C'est une intelligence artificielle, donc qui dit intelligence artificielle, c'est que à chaque fois qu'il y aura des appels, elle va se nourrir des réponses pour pouvoir enrichir sa qualité de réponse. Donc là, la conversation que nous avons eue, si on fait le même exercice demain ou après-demain, elle ne répondra déjà plus de la même façon. Aujourd'hui, elle peut répondre à des questions sur l'état civil, sur comment s'inscrire à la crèche, à l'école, répondre aussi sur des problématiques en lien avec les déchets. Et demain, ça sera même encore plus poussé. On sera capable, via cet outil, d'envoyer un SMS avec les liens directs vers les formulaires à remplir le cas échéant. On pourra augmenter aussi cette expérience usagée pour aller jusqu'à l'aide à la complétude d'un dossier administratif complexe. Le but, c'est de délivrer un meilleur service public sans augmenter la dépense publique. Qu'on puisse avoir un service public ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7, mais sans pour autant avoir des agents qui puissent être mobilisés sur cette période.
Est-ce que je peux essayer quelque chose d'autre?
Oui.
Bonjour et bienvenue à Chartres. Je suis Célia, votre assistante virtuelle. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?
Bonjour, est-ce que je pourrais parler à un être humain, s'il vous plaît ?
Je vous prie de patienter un instant. Je vous mets en relation avec un agent humain.
Il suffit effectivement de dire « là j'ai besoin d'avoir une information complémentaire » ou dire « je souhaite parler à quelqu'un effectivement d'humain ». Et dans ce cas-là, le standard téléphonique est basculé automatiquement vers nos agents d'accueil. Hier, on avait une capacité de réponse qui dépendait du nombre d'agents d'accueil disponibles. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est capable de répondre de façon illimitée en même temps à tous les appels des habitants.
Alors, on va aller voir ce qu'en pensent les Chartrains. Bonjour.
C'est comme si on réduisait sans cesse les rapports réellement humains, même par téléphone, même pour des choses qui sont peut-être pas incroyablement de l'ordre de l'affect. Mais en attendant, oui, on réduit sans cesse cette espèce de contact qui, pour autant, peut nous faire du bien.
J'ai eu le même cas avec la Poste, avec la SNCF. C'est pas encore au point.
À chaque fois, ça a pas fonctionné, ils comprenaient pas.
Non. Si, ils comprenaient, mais ils me donnaient pas la bonne réponse. Du coup, au bout de la troisième fois, j'ai raconté n'importe quoi et j'ai eu quelqu'un. Comme quoi, l'être humain existe encore, mais faut aller le chercher, faut gratter.
L'Aurélie qui arrive avec les Chartrains, la suite demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France. Le mardi à 13h50, Cyril Petit du journal Ouest France nous raconte ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, petites histoires de mutuelles un peu particulières.
Et je vous emmène, Jérôme, à Combes, en pleine 1800 âmes dans le Calvados. Fin janvier, les habitants ont pu découvrir un nouveau service proposé à l'initiative de la mairie, une mutuelle communale. Alors, c'est une demande récurrente d'habitants, en majorité seniors, qui a poussé la municipalité à se pencher sur le sujet, relate Ouest France. On sait tous que les prix des mutuelles santé peuvent devenir exorbitants lorsqu'on est retraité, a expliqué la maire. L'idée, c'est de proposer une solution moins chère. Alors, la commune s'est posée en facilitatrice. Le Centre communal d'action sociale, le CCAS, a prospecté et retenu l'organisme qui lui paraissait le plus avantageux pour les habitants. Libre à chacun, évidemment, d'adhérer ou non au choix, six formules correspondant aux différents besoins, aux différents moyens. Petit bonus ici, aux prestations classiques de complémentaire santé s'ajoutent des services comme un coup de pouce de 40 euros pour l'adhésion à une association sportive ou culturelle ou encore une assistance juridique.
Ouais, c'est intéressant. Ce service, Cyril, se développe ?
Et très vite même, hein, 4 exemples très récents, Jérôme, avec depuis le début d'année des projets ou des mutuelles communales qui ont vu le jour à Ternier dans l'Aisne, à Échirolles en Isère, à Sémalens dans le Tarn ou encore à Choconin-Neumontier en Seine-et-Marne. Et sachez, Jérôme, que la première mutuelle communale a été lancée en 2013 à Caumont-sur-Durance dans le Vaucluse. C'est ce que m'a indiqué la mutualité française qui représente 500 mutuelles et qui m'a donné d'autres informations. Les voici. D'abord, très rural, le phénomène s'est généralisé, ainsi aujourd'hui, plus de 10 000 villes en France seraient couvertes par des mutuelles locales. Alors, je dis bien locales et pas seulement communales, car le phénomène dépasse les mairies. Désormais, des intercommunalités et des départements en proposent, et même des régions comme l'Île-de-France ou Auvergne-Rhône-Alpes.
Donc, c'est un peu moins d'une commune sur trois dans notre pays. Question clé, Cyril, sont-elles vraiment moins chères ?
Eh bien, dans certaines villes, on évoque une économie de 20%. En moyenne, selon la mutualité française, celle-ci serait de l'ordre de 10 à 15% par rapport à une offre individuelle aux garanties comparables. Mais attention, car des ajustements tarifaires peuvent limiter les économies au bout de 2 à 3 années. Et ceci afin de maintenir l'équilibre financier de ces contrats d'assurance impactés par la hausse des dépenses de santé. Celles-ci ont augmenté de 3,5% en 2023 en France.
On a une idée du profil des personnes qui adhèrent ?
Oui, mais rappelons d'abord qu'une assurance complémentaire santé, Jérôme, aussi appelée mutuelle, permet de compléter en totalité ou en partie le remboursement de la sécurité sociale et que les entreprises ont depuis 2016 l'obligation d'en offrir à leurs salariés en payant au moins 50%. C'est aussi le cas depuis ce 1er janvier 2025 pour une partie de la fonction publique. Mais les personnes au chômage, les étudiants, les indépendants ou les retraités doivent se tourner vers des contrats individuels plus chers ou alors se passer de mutuelles comme 4% des Français aujourd'hui. Donc ces mutuelles territoriales et collectives répondent à un vrai besoin. Et je vous réponds, Jérôme, selon la mutualité française, les retraités représentent 70% des adhérents des mutuelles communales.
Allez, donc des retraités.
Car ce public a davantage besoin de soins. Et comme me l'a rappelé Cécile Vasseur, docteur en économie à l'Université de Lille et autrice d'une thèse sur les mutuelles, cela rend fragile l'équilibre financier de ces dispositifs facilités par les collectivités.
Cyril Petit du journal Ouest France. De C'est la France à cette une chanson. Votre invité aujourd'hui, Frédéric Pommier, est la comédienne Aurore Auteuil. C'est donc la fille de Daniel.
Vendredi et samedi, sur la scène du studio Marigny à Paris, elle reprend la pièce « Les monologues du vagin », un texte de l'auteur new-yorkaise Eve Ensler qui se joue depuis 30 ans à travers le monde. Et c'est d'une chanson disco qu'Aurore Auteuil a souhaité me parler, « Yes, sir, I can boogie » du duo espagnol Baccara.
Elle a surgi dans ma vie tout simplement parce que mon père a tourné dans un film qui s'appelle « La belle époque » de Nicolas Bedos. Il avait mis cette chanson dedans et j'étais enceinte, très très enceinte, quand le film est sorti. Et j'aurais adoré pouvoir danser dessus, mais impossible pour moi. Trop grosse et trop enceinte pour pouvoir danser dessus. Et quand j'ai accouché en plein premier confinement, césarienne d'urgence, enfin je vous passe les détails, je suis tombée sur un obstétricien assez génial qui mettait de la musique quand il décidait d'opérer et d'accoucher. Et donc il m'a demandé... dans son panel de musique, une musique qui me plairait, j'ai dit, bah alors j'aimerais bien, comme j'ai écouté beaucoup cette musique enceinte, I can boogie. Et ce qui est amusant, c'est qu'au moment de sortir Melville de mon ventre, c'est le moment où il m'a dit pousser. Je lui ai dit, mais attendez, comment je pousse, comment dirais-je, puisque c'est pas par voix basse, n'est-ce pas, c'est une césarienne. Il m'a dit, mais aidez-moi, poussez avec votre ventre. Bon, bah écoutez, j'ai poussé avec les muscles de mon ventre, comme il m'a demandé, et Melville est né sur cette chanson. Voilà pourquoi elle est importante pour moi, pour toutes ces raisons-là. Et maintenant, je danse dessus, chez moi.
Et lui, il danse dessus.
Et il danse avec moi dessus.
Il a 4 ans aujourd'hui.
Oui, tout à fait. C'est mon 3e, j'en ai déjà 2. Donc on danse tous ensemble là-dessus. Voilà, donc c'est notre chanson. Mister, your eyes are full of hesitation. She makes me wonder if you know what you're looking for. I'm a sensation. You try me once, you'll beg for more.
C'est en 1977 qu'est sorti ce tube de Baccara, Frédéric.
Une chanson sur laquelle est donc né le dernier enfant d'Aurore Auteuil. Et chanson qu'elle a mis un petit peu de temps à pouvoir réécouter par la suite.
Pendant un moment, ça me remuait trop, vous savez, de l'écouter comme c'était lié à un souvenir très fort pour moi et que je suis sensible. Et puis, c'était une période qu'on a tous vécue un peu douloureuse, hein, on va dire ça comme ça. Mais bien sûr. Et donc, oui, c'était lié à un grand bonheur et en même temps beaucoup d'angoisse.
Est-ce que le papa de Melville, il était là pour l'accouchement ?
Oui, il était là pour la naissance du petit. Et comment dirais-je, en revanche, une fois qu'il était né, il n'avait pas le droit d'être là dans la chambre, donc je suis restée toute seule avec le bébé... Heureusement que j'en avais déjà eu 2 avant, je savais comment on faisait, mais c'est vrai que ça a été dur, hein, cette période-là. D'accoucher pendant le confinement, pendant le Covid, ça a été très dur. Donc, en même temps, c'était un bonheur immense d'avoir ce bébé, et en même temps, comment dirais-je, je ne vais pas vous mentir en vous disant que j'étais très triste d'être seule, quoi. Mais bon, on a l'habitude de gérer seule aussi, nous les femmes, souvent, beaucoup. C'est vrai.
Dans cette chanson, on a donc 2 jeunes femmes,
oui,
qui répètent qu'elles veulent danser.
Ouais, voilà.
Vous, dans la vie, vous avez toujours aimé danser ?
J'ai toujours adoré danser. J'adore ça. J'adore.
Votre père, il danse aussi ?
Oh il a intérêt. Oui, oui. Oui, il danse. Il danse bien même. C'est lui qui m'a appris à danser, même quand j'étais petite.
Est-ce que vous pensez que d'être né sur une chanson comme celle-ci, ça lui a donné un caractère particulier à votre petit Melville ?
J'en sais rien, mais il est né, il était très en colère. Alors il a peut-être senti ma colère à moi, mes angoisses et ma colère quand il est né de la situation. Il a peut-être gardé ça en lui, la musique, je sais pas.
Il est toujours en colère ?
Moins. Il sait où il va, tiens, ça c'est plutôt pas mal. Il a confiance en lui et ça au moins c'est réussi.
Et lui, il danse beaucoup ?
Et lui, il danse beaucoup, oui. Et les 2 autres, hein, que j'aime plus que tout, ils dansent aussi.
Yes, sir, I can boogie, Baccara. C'était donc, Frédéric, le choix d'Aurore Auteuil.
Aurore Auteuil, que vous pourrez retrouver vendredi et samedi au studio Marigny à Paris. avec les actrices Galia Salimo et Déborah Lukumuena dans les monologues du vagin dont elle signe par ailleurs la mise en scène.
Merci Frédéric et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
Quel est le programme de La Terre au carré ?
La Terre avant les dinosaures dans un instant.
A tout de suite.